Avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.
Pour le groupe ACAT Bayonne, nous accueillons Jean Déo.
Bien chers auditeurs, je fais donc partie de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'engagement magnifique des femmes pour la paix, à travers l'évocation du combat des femmes pour une paix juste en Irlande et celui de femmes palestiniennes et israéliennes. C'est un combat très actuel concernant le conflit Israël-Palestine. Et oui, nous allons encore une fois évoquer la guerre sanglante qui balafre la Terre Sainte. Notre engagement chrétien ne nous permet pas de rester indifférents à cette terre qu'a foulée notre Seigneur Jésus et aux souffrances de ces deux peuples condamnés à s'entendre. Ce qui se passe à Gaza ne veut pas nous laisser indifférents, et encore une fois, parler des forces de paix dans cette tragédie insensée est tellement important. Mais commençons d'abord par rendre hommage au courage et à la détermination des femmes irlandaises. Vous vous rappelez peut-être, le conflit nord-irlandais a duré une trentaine d'années à partir des années 1960. Il se déroulait entre les unionistes, majoritairement protestants, et les républicains, majoritairement catholiques, et l'enjeu était le statut de l'Irlande du Nord, restée ou non dans le Royaume-Uni. Ce conflit a profondément divisé la société irlandaise. En 1976, le déclencheur de l'entrée en lice des femmes irlandaises, jusqu'ici ignorée par les hommes politiques des deux bords, a été la mort stupide de trois enfants. En août 1976, un membre de l'IRA provisoire est abattu à Belfast par l'armée britannique au volant de sa voiture. Son véhicule, hors de contrôle, écrase trois enfants. À la suite de cet événement, la tante de ses enfants, Mairead Corrigan, et des amis lancent un mouvement pacifiste appelé le Peace People. Et l'objectif de ce mouvement est de rejeter la violence, de promouvoir la réconciliation, de mobiliser les citoyens ordinaires. Il sera rapidement récompensé par le prix Nobel de la paix en 1976. Puis, dans les années 1980-90, sont créés des centres communautaires dans les quartiers défavorisés, sont organisés des ateliers de dialogue, mis en place des aides juridiques et des actions pour le droit des prisonniers. Mais ce mouvement n'a pas été vraiment suivi par les hommes et les partis politiques. Aussi, en 1996, a été créée la Coalition des femmes d'Irlande du Nord, qui était un parti politique féministe, inclusif et transcommunautaire, il associait des femmes protestantes et catholiques. Ce nouveau parti a participé aux négociations de l'accord du Vendredi Saint, officiellement nommé accord de paix pour l'Irlande du Nord, qui a été signé le 10 avril 1998 par les principales forces politiques d'Irlande du Nord. Celles-ci, dans ce traité, acceptent la solution politique formalisé pour mettre fin aux 30 années de troubles sanglants qui firent 3500 morts. Il a donc fallu un événement tragique pour que les femmes s'immiscent dans ce conflit sans a priori, sans catéchisme politique, mais avec toute l'humanité dont sont capables les femmes. Et je vous donne quelques citations de ces militantes. « Nous ne demandons pas des miracles, nous demandons la paix. » La paix n'est pas quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous construisez, que vous faites, que vous êtes. Maintenant, venons-en à la lutte similaire menée par les femmes dans le conflit israélo-palestinien. Ce combat, souvent méconnu, mais essentiel, est un acteur principal des efforts de résolution du conflit. Depuis des décennies, des femmes israéliennes et palestiniennes s'engagent activement pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la fin de la violence, souvent au péril de leur sécurité ou en dépit de l'indifférence, voire de l'hostilité des acteurs politiques dominants. Et voici un aperçu de ce combat. Les femmes ont joué un rôle dans les efforts de paix dès les premières phases du conflit. Elles ont souvent été les premières à tendre la main de l'autre côté, que ce soit en organisant des rencontres, en lançant des appels à la non-violence ou en mobilisant la société civile. Alors, quelles sont-elles ces femmes ? Historiquement, tout d'abord les femmes en noir, qui est née dans les années 80, et puis un groupe qui s'appelait Bat Shalom, et enfin, récemment, les guerrières de la paix. Ce groupe de femmes a été créé en 2014 après l'opération militaire Bordure Protectrice à Gaza. Il est composé de femmes juives, musulmanes, chrétiennes, druzes, laïques ou religieuses. Les guerrières pour la paix ont organisé des marches pour la paix avec comme slogan « Nous refusons d'être ennemis ». Elles ont organisé des vigiles et des jeûnes devant la Knesset pour appeler au dialogue. Elles ont mis en place des cercles de dialogue, des ateliers d'éducation à la paix. Et le 4 octobre 2023, avant le 7 octobre funeste, les guerrières pour la paix ont organisé une grande marche pacifique à Tel Aviv. Et le 7 octobre, une de leurs dirigeantes, qui vivait dans un kibboutz proche de Gaza, a été assassinée par le Hamas. Cette tragédie a été, selon les mots de Anna Souline, qui est fondatrice du mouvement, un effondrement intime. Ça a été l'irruption du conflit dans leur propre chair à chacune. Mais le mouvement continue pour rechercher perdument des pistes pour la paix, plus que jamais. Alors, dans le fond, dans les conflits, pourquoi les femmes ? Les femmes, souvent marginalisées dans les processus de décision politique, apportent une approche différente à la paix. Elles mettent l'accent sur la sécurité humaine, c'est-à-dire la protection des individus, plutôt que sur la sécurité militaire. Leur engagement est souvent plus communautaire et centré sur la réconciliation, la justice sociale et la reconstruction. Et en tant que mère, éducatrice ou travailleuse sociale, elle voit directement les conséquences de la guerre sur les civils, notamment sur les enfants. Mais elle rencontre des obstacles qui sont l'exclusion politique. Les femmes restent largement absentes des tables de négociations officielles. Ça peut être aussi la stigmatisation. Les femmes qui s'engagent dans le dialogue avec l'ennemi sont parfois accusées de trahison ou marginalisées dans leur propre communauté. Ça peut être aussi de la violence ou des menaces. Certaines militantes reçoivent des menaces de mort ou subissent des pressions pour abandonner leurs activités. Quel est leur impact et quels sont leurs espoirs ? Tout d'abord, c'est probablement de maintenir le dialogue vivant entre les deux peuples. C'est aussi de créer des réseaux de solidarité transnationaux, intercommunautaires. C'est de proposer une autre vision de la paix, centrée sur les besoins des populations. Alors, en conclusion, le combat des femmes pour la paix dans le conflit israélo-palestinien montre qu'un autre discours est possible. En dehors de la logique binaire d'affrontement, ces femmes courageuses rappellent que la paix ne se construit pas seulement autour d'une table de négociation, mais aussi dans les rues, les écoles, les familles et surtout dans les cœurs. Et j'aime beaucoup cette formule de Louis Aragon, « L'avenir de l'homme et la femme ». Ce petit exposé nous rappelle ici et maintenant la nécessité, comme le font ces militantes, d'abolir les frontières de race, de religion, entre nous. L'ACAT, rassemblant les différents courants chrétiens, l'a bien compris. Nous portons donc dans notre prière tous ces mouvements de réconciliation, d'humanité, qui sont autant de graines d'espoir, de petites lueurs dans ce monde déchiré et chaotique. Et j'aimerais finir ce petit billet par une profession de foi qui a été écrite par une église réformée évangélique en Suisse. Qui dit la chose suivante. Il est des guerres où l'on meurt sans même comprendre pourquoi. Des conflits si longs qu'on ne sait plus ce qui ressort de la légitime défense ou de l'acharnement meurtrier. Des situations où l'on a l'impression que Dieu lui-même a déserté. Mais nous disons ici, moins pour réconforter que pour tenir debout, Dieu n'est ni en fuite ni complice. Il ne soutient pas d'armée, il n'a pas de camp. Dieu n'a que des enfants. Et quand l'un tue l'autre, Dieu pleure. Pas des larmes symboliques, mais les vraies, celles qui brûlent, celles qu'on étouffe dans la gorge, celles d'un père impuissant face à la haine que ses enfants ont laissé grandir au nom de leurs blessures. Le conflit israélo-palestinien n'est pas qu'un différend politique, territorial ou identitaire, c'est un abîme spirituel, parce qu'on y tue au nom de Dieu, parce qu'on y justifie la vengeance par la mémoire et les textes sacrés, parce qu'on y appelle justice, ce qui n'est que l'extension de la peur et de la haine. Alors nous appelons l'Église non à se faire juge des peuples, mais à rappeler que tous sont jugés par l'Évangile, non sur leur force, mais sur leur amour, non sur leur victoire, mais sur leur capacité à faire vivre la justice et à compatir même pour l'ennemi, en reconnaissant qu'il pleure ses morts lui aussi, en confessant que lui aussi est enfant de Dieu. Et cela vaut pour tous, Israël, Palestine, Occident, extrémistes, modérés, victimes et bourreaux, car en Dieu, leurs rôles ne sont jamais fixés. Nous ne pouvons pas faire la paix à la place des belligérants, mais nous pouvons veiller, nous pouvons dire, dénoncer même, prier, marcher, et surtout désarmer notre cœur pour ne pas devenir à notre tour des meurtriers de la fraternité ici et maintenant. Nous n'attiserons pas les feux de la haine raciale ou religieuse et ferons tout pour éteindre ceux déjà allumés. La paix n'est pas une utopie, mais un chemin ardu, un choix à refaire chaque jour, même quand tout en nous voudrait renoncer. Enfin, nous confessons ce paradoxe fou. Dieu n'impose pas la paix par la force, mais il nous confie la tâche de le faire, avec pour seules armes la foi, l'espérance et l'amour. Et même si cela semble si peu, cela demeure plus puissant que toutes les armes du monde. Merci pour votre écoute.
Avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.